Bonjour, nous sommes à notre dernier cours. Ça ne veut pas dire que la matière est épuisée, car elle est sans fin. Tant que nous vivons ensemble sur cette terre, le christianisme et le judaïsme restent en vis-à-vis. Et c'est extrêmement utile que nous ayons les juifs à côté de nous, parce que sinon nous croirions que le royaume des cieux est arrivé. Il est arrivé en Jésus, oui, d'accord, mais il n'est pas encore arrivé en nous, car nous ne sommes pas encore complètement devenus Jésus, tant s'en faut. Donc nous sommes encore en chemin, et d'avoir à côté de nous non seulement le judaïsme, bien sûr, mais l'islam et d'autres religions encore, nous fait réfléchir. Nous ne sommes pas au bout et nous n'avons pas la vérité. La vérité nous pénètre, mais nous ne la possédons pas. Et donc, ce cours sur le judaïsme est constamment en route. Mais il faut bien s'arrêter à certains moments. Je vous ai mis une page de bibliographie complémentaire. C'est un choix de livres. Il y en a des quantités qui paraissent de très bons. La fois passée, je vous ai donné quelques pages du rabbin Setbon, qui est devenu chrétien et qui faisait une réflexion sur ce que lui avait apporté le christianisme. Mais nous restons constamment en tension, non seulement vis-à-vis des autres religions, mais dans notre religion elle-même. Le judaïsme dit que la tension, c'est la vie, parce que la tension est un défi qui nous mène à un au-delà, à dépasser quelque chose, à montrer que les obstacles sont faits pour être dépassés, traversés d'abord. Alors il y a encore un point important, c'est à la page 90, 90 du syllabus, c'est le rapport à la terre. Parce que nous confondons souvent judaïsme et État d'Israël. Ce sont deux réalités très différentes. Comme on peut aussi confondre christianisme et Occident. Ce sont deux réalités différentes. Mais Israël a un rapport essentiel à une terre. Il en a été privé pendant presque 2 millénaires, et donc le retour à la terre pour lui était une injonction capitale. Pourquoi? Dans la Bible, une chose est essentielle à Israël, bien sûr aux nations aussi. Les nations, ce sont les peuples qui ne sont pas le peuple d'Israël, parce que le juif croit que la terre lui a été donnée. Et c'est important de croire que la terre nous est donnée, c'est-à-dire que nous ne la possédons pas non plus. Elle nous est donnée pour que nous la fassions fructifier, mais elle nous est donnée, c'est un don. Généralement, on parle dans les sciences d'un donné. C'est un donné. C'est comme cela. Comme cela dans la nature, c'est comme cela dans les situations. Et on ne se pose pas toujours la question du donateur. Si c'est un donné, ça nous est donné par quelqu'un. Et donc la terre, c'est le champ qui est donné à l'homme pour travailler. Et nous voyons cela déjà dans le livre de la Genèse, tout au début, quand l'homme est créé au sixième jour, avec les animaux, animaux-hommes, hein, ce sont, l'homme est un animal dit raisonnable. Une fois que l'homme apparaît et que toute sa terre, tout ce qui lui est donné à vivre existe, Dieu donne à l'homme la responsabilité. Il se retire, il chôme, mais il laisse l'homme travailler. Et c'est ce travail de l'homme qui est important. La nature est donnée, la culture, c'est le travail que l'homme fait à partir de la nature. La terre est importante parce que elle est créée, c'est la création donnée à l'homme, et quand l'homme est là, Dieu donne à l'homme sa nourriture. Il met l'homme à table. À table, pour qu'il travaille cette terre, qu'il s'en nourrisse, qu'il nourrisse une vie qui lui est donnée, qu'il mange, et qu'il découvre le don de Dieu en mangeant. Dès le début de la Genèse, l'Eucharistie est présente. Dieu se donne à manger dans sa création. Et l'homme devra petit à petit découvrir que le fruit de la terre et du travail de l'homme, c'est un don de Dieu. Ça, c'est la perception du judaïsme et du christianisme qui le prend en charge. Mais qu'est-ce que le don de Dieu qui est la terre? Qu'est-ce que nous pouvons en faire? Et dans la Bible, c'est constamment le problème. Que faire de cette terre qui nous est donnée? La faire produire, bien sûr, l'utiliser, bien sûr, mais est-ce l'utiliser n'importe comment? Est-ce la gaspiller? Il y a tout un problème écologique qui traverse toute la Bible. Le respect de la réalité telle qu'elle est. Et vous trouvez, à propos de la relation de l'homme à la terre dans la Bible, deux lignes constantes. Que faire de cette terre qui nous est donnée? D'abord, de la terre en général, et pour Israël, de sa terre. D'ailleurs, quand il parle de la terre d'Israël, c'est toujours Haaretz, la terre par excellence, le lieu. Quand on parle de Dieu, on dit Hamakom, le lieu. Ce n'est pas uniquement un lieu géographique, mais s'il y a un lieu géographique, c'est pour montrer l'importance. Nous partons toujours d'un lieu. Quel est notre lieu? Notre lieu, c'est une relation. Une relation de Dieu, ciel, à la terre, homme. Et deux lignes se distinguent dans la réflexion d'Israël à propos de la terre. Et c'est important. Elles sont aussi en tension. Et nous verrons que c'est tout à fait courant pour nous aussi. À la page 91, je vous dis ceci. En fait, il y a deux lignes d'interprétation de la terre dans la Bible. Celle d'inspiration sacerdotale. Ah, vous savez que finalement, dans la rédaction définitive de la Bible, il y a une relation que l'on appelle sacerdotale, c'est-à-dire qui a été prise en charge par la caste sacerdotale. Et il y a ce qu'on appelle généralement l'histoire deutéronomiste, qui a été prise en charge par toute une tradition qui a son point de vue aussi sur l'histoire d'Israël. Donc une histoire sacerdotale, une histoire en quelque sorte de caste, et une histoire deutéronomiste, en quelque sorte une histoire sociale. Celle d'inspiration sacerdotale qui insiste sur le fait qu'elle est don de Dieu. En conséquence, on ne peut pas l'aliéner puisque Dieu l'a confié à la garde du peuple juif. Et on voit que dans la terre d'Israël, aujourd'hui, l'État d'Israël, la question se pose encore, nous allons le voir tout de suite. Et si elle a fait, et si elle a été occupée par des étrangers depuis Sargon II, attention, hein, 722, le nord, et par Nabucodonosor, un siècle plus tard, le sud, bon, elle a été aliénée depuis cette époque, Israël n'a jamais plus eu de terre qu'il possédait. Le peuple d'Israël a été toujours occupé ou dispersé dans la diaspora. Dieu l'avait tenu en réserve jusqu'à 1948. Donc, vous voyez, 2 millénaires de la résurrection d'Israël. Moment de la résurrection d'Israël. C'est pourquoi, après la Shoah, 6 millions de Juifs qui sont morts, après la Shoah, Israël a voulu se retrouver sur sa terre. Mais il y avait déjà un sionisme existant, nous allons voir tout de suite. Donc, date de la résurrection d'Israël, 1948, de notre ère. C'est la thèse défendue par la droite en Israël, le Likoud. Le Likoud veut la possession de la terre d'Israël comme don de Dieu. Donc rien n'est aliénable. Donc Israël doit posséder ce pays. D'où toutes les implantations. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays? D'où va-t-il? Quelles en sont les limites? Ah ben c'est du Nil à l'Euphrate. C'est dit dans la Bible. Mais ce Nil à l'Euphrate était une expression beaucoup trop ouverte. C'est de Dan à Beersheba. Donc depuis le nord, le Liban, jusqu'au désert. Bon, mais face à cette mentalité, la terre nous est donnée par Dieu, donc on doit la conserver. Comme quand on vous donne un cadeau en vous disant, c'est pour vous, hein ? Oui, mais si on vous donne le cadeau, vous pouvez aussi le partager, vous pouvez aussi le donner, puisqu'il est cadeau. Mais non, c'est pour vous. Ça, c'est la mentalité sacerdotale, qui est souvent une mentalité qui veut garder ce qu'il possède. Alors, vous avez l'autre ligne qui se trouve surtout dans le Deutéronome, bien sûr, et dans toute l'histoire deutéronomiste, que nous verrons, si Dieu le permet, au second semestre, depuis l'entrée en Israël, Josué, jusqu'à l'époque des Maccabées. Bon, c'est toute l'histoire d'Israël qui est racontée dans une autre perspective que celle de la possession sacerdotale. Celle d'inspiration deutéronomiste qui donne une constitution pour l'organisation du pays, le droit et la justice pour les plus faibles, les pauvres, la veuve et l'orphelin, l'étranger, l'immigré. Faire attention aux petits, aux pauvres. Ça, c'est la mentalité que nous appellerions deutéronomiste ou sociale. Donc la terre peut être partagée avec des déshérités. On peut évidemment accepter qu'il y ait un État palestinien dans l'État d'Israël ou à côté de l'État d'Israël. Oui, toute cette question qui date de la Bible et qui sont encore présentes dans la vie d'aujourd'hui. C'est la thèse de la gauche en Israël, dans l'Israël actuel, le point de vue social, le parti travailliste. Le Likoud est le parti travailliste. Vous avez Netanyahou, Shimon Peretz aujourd'hui. Donc cette tension qui existe maintenant dans l'État d'Israël. L'État d'Israël, il y a tout un chapitre, je vous donne toutes les dates de la construction ou la reconstruction de l'État d'Israël, mais elle se trouve déjà présente dans les Actes des Apôtres, car Qu'est-ce qui se passe dans les Actes des Apôtres? Jésus, avant de partir, juste avant son ascension, fait son testament et dit qu'il va donner l'Esprit Saint qui sera avec vous. Et à partir de Jérusalem, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi il dit Jérusalem, Samarie? Mais c'est parce que le nord et le sud, après Salomon, ont été disloqués. Deux parties opposées. La Samarie, d'une part, et la Judée, au sud, d'autre part. La Samarie, le territoire est beaucoup plus fertile, beaucoup plus fécond, tandis que Jérusalem, la Judée, est beaucoup plus aride. Déjà, la géographie est différente. Et donc, dissociation des tribus du nord et des tribus du sud. Et les Actes des Apôtres montrent que le nord et le sud vont se retrouver, vont se reconstruire par l'œuvre même du Saint-Esprit. Et puis, que l'on va essaimer, on va quitter la terre d'Israël et s'installer aussi dans la diaspora. Et on va passer justement du territoire d'Israël au territoire du Nord, la Turquie actuelle, et puis l'Europe. Donc c'est cette ouverture. Et ça c'est important, parce que si Israël, c'est-à-dire si le judaïsme, si la religion juive a besoin d'un point d'ancrage dans la réalité du monde, c'est pour dire que la terre est un don de Dieu. Mais que ce don est fait pour être aussi partagé. Donc voilà une des mentalités que vous trouvez en Israël aujourd'hui. Et le sionisme, qui a commencé à la fin du XIXe siècle, le sionisme, c'est justement le retour sur cette terre, puisqu'elle a été donnée. Donc, l'idée est fondamentalement religieuse. Maintenant, la manière de le vivre, ça c'est autre chose. Parce que l'État d'Israël se considère maintenant comme un État laïque. Elle se considère. Mais on voit très bien que l'influence du judaïsme, je dirais, beaucoup plus conservateur, est d'essayer de faire d'Israël un État, comme l'islam essaye de faire, un État religieux. De nouveau, une difficulté. Comment vivre cette présence du don de Dieu et donc de l'observance des commandements dans un État qui devient un État laïque? Ce problème, nous l'avons aussi. Mais pour Israël, c'est important parce qu'il doit vivre dans cette terre où Dieu est censé être venu exister dans le temple de Jérusalem, le lieu que Dieu a choisi pour y faire habiter son nom. C'est une expression qui revient notamment dans le Deutéronome. La terre, don de Dieu. Donc, le pays devrait être, en quelque sorte, missionnaire. Non pas missionnaire. Non. Le lieu qui dit que la présence de Dieu doit être vécue dans le peuple d'Israël. Voilà. Ça, c'est la mentalité juive. Et que le Likoud emprunte à sa manière. Que le socialisme en utilise dans une perception différente. D'où, évidemment, conflit ou négociation. Vous avez les dates principales de l'État d'Israël, la constitution d'État d'Israël après la Shoah, à la page 91. Le projet sioniste, c'est le retour des Juifs sur leur terre. Mais il est impossible de mettre tous les juifs sur la terre d'Israël. Il y a plus de juifs en Amérique du Nord qu'il n'y en a dans le territoire d'Israël. Parce que ces juifs ont émigré. Ils ont émigré d'abord parce que on les a rejetés de partout, sauf à l'est de l'Europe. Mais ceux qui ont été rejetés de l'Occident, de l'Europe, ont trouvé refuge en Amérique du Nord. Si bien qu'il y a beaucoup plus de juifs en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis, qu'en Israël. Et vous savez, les juifs ont souvent de l'humour. Qu'est-ce qu'un sioniste américain ? Un sioniste américain, c'est celui qui donne de l'argent pour qu'un autre sioniste monte en Israël. Pendant plusieurs décennies, les États arabes voisins décidèrent du sort des Palestiniens qui vécurent dans des camps. Et c'est toute cette histoire des camps palestiniens, et puis de l'État palestinien, et des discussions impossibles, parce qu'aucun des deux ne veut traiter avec des terroristes. Entre terroristes, on devrait pourtant pouvoir s'entendre. N'oublions pas que les terroristes, pour l'islam du Proche-Orient, comme le judaïsme du Proche-Orient, l'exemple type des terroristes, ce sont les croisés. Alors, voyez, la difficulté existe, mais la difficulté est faite pour être surmontée. Non pas par la violence, ça ne sert à rien, mais par une négociation, une entente. Y arriveront-ils ? Ce sont les termes avec lesquels je termine à la page 92. Y arriveront-ils ? Difficile de s'entendre entre hommes. Mais le judaïsme maintenant, c'est-à-dire la manière religieuse de vivre des Juifs, il ne faut pas du tout la comparer à la situation de l'Église. L'Église est hiérarchisée, et le principe hiérarchique vient de Constantin, il vient de l'Empire romain, la hiérarchie. Une tête, un empereur, et puis la division, jusque au plus petit lopin de terre. Le judaïsme n'est pas constitué comme cela. Il n'y a pas d'orthodoxie dans le judaïsme, même si on parle de juifs orthodoxes, on va voir tout de suite. Il n'y a pas une manière de croire et il n'y a pas un credo. Il y a une manière de vivre, et de vivre ensemble, et de se constituer en peuple que Dieu a donné. Alors, le judaïsme est un par ce qu'on peut appeler une orthopraxie, une manière de faire, une manière d'agir, une manière d'exister, une manière de mener la vie, en général, bien sûr. Et comme c'est la Torah qui est la fondation du peuple d'Israël, la Torah, donc les cinq livres de la Genèse, les cinq livres du Pentateuque, pardon, de la Genèse jusqu'au Deutéronome, et donc c'est la loi. Mais cette loi doit être interprétée. Elle l'était déjà du temps de Jésus. Il y avait déjà quatre interprétations du temps de Jésus. Il y avait quatre, que nous appelons souvent parties ou courants, mentalités différentes. Il y avait la stricte observance qui était celle des Sadducéens. La stricte observance, c'est-à-dire l'observance littérale, était l'opinion des Sadducéens. Ce qui est dans la Torah doit être observé littéralement. Le reste, là, c'est un peu selon les mentalités. Et puis, il y avait les pharisiens, que nous appelons souvent stricte observance, mais c'est pas vrai. Parce que les pharisiens avaient une tradition, ils savaient qu'ils étaient en marche. Et cette tradition devait être sans cesse interprétée. Il y avait l'interprétation des prophètes, il y avait l'interprétation de la sagesse. Et donc, il y avait une vie de cette Torah. Elle n'est pas littérale. Elle est dans une tradition interprétative. Et cela est passé aussi dans le christianisme. Alors c'est une autre perception, une autre mentalité. Et puis, il y avait ce qu'on pouvait appeler les conservateurs. Les conservateurs qui ne voulaient rien entendre d'une manière civile, ou politique, ou sociale, mais qui se retiraient au désert, type hein, la mentalité qumranienne. Donc des gens qui disaient, ce clergé de Jérusalem, il est tout à fait perverti, nous allons vivre authentiquement. La pure religion, au désert. Et puis il y avait ceux qui voulaient s'instaurer par la violence. Donc déjà quatre mentalités. Et ces mentalités étaient présentes parmi les apôtres aussi, puisqu'il y a même un zélote. Simon le zélote. Il n'y avait pas de sadducéens dans les apôtres. Il n'y avait pas de sadducéens. Il n'y avait pas des gens qui fricotaient avec l'occupant, parce que c'était un peu leur mentalité. Alors, aujourd'hui, bien, nous avons un judaïsme multiple, puisqu'il n'y a pas de hiérarchie, sinon dans une manière de vivre, et dans une interprétation de la manière de vivre, ben, il y a des interprétations différentes, de cette manière de vivre que l'on appelle une halakha, c'est-à-dire une voie, un chemin, une manière. Et donc il y a une halakha générale, c'est la Torah, et maintenant, ben, il y a différentes tendances où chacun en prend ce qu'il considère comme ce qui lui est imposé en conscience. Donc il y a des manières différentes, des consciences différentes. Il y a des consciences plus étroites, plus conservatrices, et il y a des consciences plus ouvertes, plus, qui essaient de s'acclimater et de s'adapter à la mentalité des hommes, aux cultures humaines. Alors, je vous donne les quatre grandes distinctions du judaïsme et on s'affilie à tel ou tel courant et on a ses rabbins et on a ses écoles et on a ses mentalités différentes et donc on discute. La controverse étant essentielle dans la foi juive. Les controverses, vous les trouvez constamment dans les évangiles. Mais ces controverses font avancer. C'est pour essayer de réfléchir la manière dont on agit et pour justifier sa manière d'agir. Alors, vous avez le judaïsme orthodoxe. Hein, ici, on parle bien d'orthodoxe, mais en fait, c'est pas la même foi. C'est la même action. Le judaïsme orthodoxe, c'est le littéralisme qui a été repris. Mais attention, un littéralisme, de nouveau, qui se réfléchit, qui se discute, qui prend des voies différentes, depuis la plus stricte observance jusqu'à une observance un peu mitigée, qui tient compte des différents aspects de la vie d'aujourd'hui. Un exemple bien simple, à Jérusalem, vous avez un quartier qui s'appelle le Mea Shearim, les 100 portes, et ce quartier, c'est le quartier des stricts observants. Là, le jour du sabbat, on ne fait pas plus de 1000 pas. On mange tout à fait cachère, et le plus cachère possible. Et il y a même, dans ce Mea Shearim, un groupe qui est encore plus observant que tous les observants, et qui s'appelle les Naturei Karta, les gardiens du seuil, et qui ne sont pas du tout d'accord avec l'État d'Israël, un État qui n'est pas Dieu qui est présent partout, ce n'est pas un État vrai. Et donc, ils n'utilisent pas la monnaie israélienne, ils utilisent le dollar, et tout est à l'avenant. Mais ils vivent en Israël, et ils sont acceptés en Israël, pour dire ben, la contradiction d'un État civil. Mais ils vivent à l'intérieur. Et ça, c'est le paradoxe d'Israël. Les Naturei Karta. Donc, ce sont les observants. Et vous avez, par exemple, de chez les observants, dans certains quartiers, qui, au moment où commence le sabbat, hein, c'est annoncé par une corne, au moment, à l'heure du sabbat, c'est-à-dire quand le soleil disparaît à l'horizon, eh bien, qui frappe partout quand les boutiques ne sont pas fermées. Allez, Sogrim, on ferme. Oui. Et tout ça est admis. Si vous voulez vivre de cette manière, allez vivre dans tel quartier. Quand on vit dans un building, c'est en pleine ville, dans la nouvelle ville, c'est un peu différent. Donc ça, c'est les plus, la mentalité, disons comme cela, la mentalité la plus stricte. Puis vous avez ce qu'on appelle le judaïsme réformé. Réformé, c'est-à-dire un judaïsme qui s'est ouvert à la modernité. On observe encore le sabbat, on observe un certain nombre de lois, d'interprétations de la loi, on l'observe, mais on tient compte d'un certain nombre d'éléments de la vie d'aujourd'hui. D'un certain nombre d'éléments. Les uns, tels éléments, d'autres éléments. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le judaïsme réformé. Et il y a deux lignes. Une ligne que l'on appelle le judaïsme libéral, qui existe ici en Belgique aussi. Vous avez un judaïsme orthodoxe ici en Belgique. Vous avez un judaïsme libéral. Et d'autres variantes d'après les pays où l'on vit. En Amérique, en Russie, en Espagne, il y a des manières différentes de vivre. Mais voyez, ce sont toujours un peu des églises qui se retrouvent avec la même mentalité. Église au sens premier du terme, une assemblée, une réunion, une convocation qui se choisit. Donc vous avez le judaïsme le plus intégral, et puis le judaïsme libéral, orthodoxe libéral. Il y a un entre les deux. On n'est pas tout à fait orthodoxe, on est plus libéral encore que les libéraux. C'est-à-dire, De temps en temps, on suit les lois strictes d'Israël. Par exemple, on ne manquerait pas un Yom Kippour, hein, un jeûne complet d'un jour, hein, le grand pardon, une fois par an. Il y en a alors qui viennent tous les jours de Shabbat à la synagogue. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle le judaïsme conservateur, donc qui est observant, mais pas trop. Et il n'est pas tout à fait libéral. Et vous en trouvez de tous les genres, et tout ça se mélange très bien. Et puis, vous avez même le judaïsme humaniste, c'est-à-dire celui qui lâche tout. Les universitaires, généralement, Tel Aviv, hein, on est juif, bien sûr, mais la judaïté, c'est l'appartenance. Et donc, l'appartenance même à un État tout à fait laïque, c'est du judaïsme aussi. Donc vous avez toute la gamme, depuis le plus orthodoxe jusqu'au plus humaniste. Notez que ces différentes variantes, vous les retrouvez dans le christianisme. Hein. Tout le monde ne vit pas comme un chartreux. Et il y en a qui ne vont jamais à la messe, mais qui croient en Dieu et se disent chrétiens. Seulement, là, il y a une hiérarchie. Il y a une orthodoxie au sens strict du terme. Mais donc, nous considérons souvent le judaïsme comme étant structuré de la même manière que l'Église. Mais ce n'est pas du tout le cas. Et tout cela fait partie du même judaïsme. Toute la gamme. Alors, le problème, évidemment, comme il existe aussi aujourd'hui, c'est la religion et la politique. Est-ce que, quand on fait de la politique, on peut avancer des arguments religieux ? En Israël, ça se fait. Les religieux font partie de l'État d'Israël. D'ailleurs, les religieux participent à tous les pouvoirs, qu'ils soient plutôt progressistes, plutôt de droite, disons, ou plutôt de gauche. Du moment que les religieux puissent avoir de l'argent pour leurs œuvres, parce que les religieux, les stricts, ne travaillent pas. Il y en a qui travaillent, mais il y en a qui ne travaillent pas, puisqu'ils étudient. Et ils étudient pour le peuple. Donc ils sont au service du peuple. Donc ils ont droit à être rétribués, puisqu'ils étudient. Oui. Alors, religion et politique, c'est pas évident du tout. Et les discours à la Knesset sont souvent ardus, parce que finalement, chacun essaie de trouver son intérêt. Donc, voilà, en très bref, les choses qui sont importantes et que l'on voit aujourd'hui, et quand on voit soit dans les journaux, soit à la télévision, on ne se rend pas toujours compte de la mentalité. Il faut être dedans pour le voir. Et vous avez, depuis l'orthodoxie tout à fait stricte, à côté d'une vie que nous appellerions aujourd'hui tout à fait dissolue. Mais tout ça se dit juif. Nous ne dirions pas la même chose, nous ne nous appellerions pas tout à fait chrétiens dans ce sens-là, mais là, ça peut se dire juif. Pourquoi ? Parce que le juif naît juif. Le chrétien le devient. Parce que le judaïsme, pour être vraiment le judaïsme, doit rester particulier. Un peuple particulier avec ses particularités. Avec ses divisions aussi. Mais avec cette particularité. Le judaïsme est centripète dans la Bible déjà. Si vous regardez tous les prophètes, ils voient le jour messianique comme le moment où tous viendront adorer à Jérusalem. C'est déjà repris dans notre visite des mages, hein, notre épiphanie, où les nations viennent adorer à Jérusalem. Ça, c'est son tripette. Or, que fait Jésus ? Jésus envoie en mission ses disciples. Allez enseigner toutes les nations. Baptisez-les, plongez-les dans l'intimité du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Donc, deux centripètes, la vision devient centrifuge. Parce qu'elle est universelle. Parce que tout homme est un chrétien en puissance. C'est une présence de Dieu, une présence de l'Esprit Saint. Alors reste cette question que je reprends un peu à partir de la page 99, c'est ça ? 97, pardon. Mais il faut lire aussi les derniers documents que je vous donne, hein, à la fin, à partir de la page 43, je crois. Oui, c'est ça. À partir de la page 43 des documents, la deuxième partie du syllabus, qui essaie justement de trouver un chemin pour mettre en œuvre ce qui a été donné dans Nostra Aetate au Concile Vatican II, les relations entre catholiques et juifs. Alors vous avez un document important à la page 43, orientation et suggestion pour l'application de la déclaration conciliaire Nostra Aetate. Bon, il y a 50 ans de cela. Bon, on fait des petits pas, on n'est pas encore au bout. Et alors, vous avez à la page 47 un autre document, note de la commission du Saint-Siège pour les relations avec le judaïsme. Et c'est aussi pour mettre en œuvre Vatican II. Je vous conseille de lire donc à la page 43 et suivante, puis à la page 47 et suivante. Ce sont des documents d'Église qui ouvre notre esprit et notre cœur à la découverte de ce que le judaïsme peut encore nous apporter aujourd'hui et du dialogue qui peut exister. Ce que le judaïsme nous apporte aujourd'hui, c'est d'abord, saint Paul le dit dans les chapitres 9 à 11 de l'Épître aux Romains, ce que Israël nous apporte aujourd'hui, c'est tout son passé. C'est toute cette expérience de Dieu à travers tout le passé d'Israël. Et ce n'est pas rien du tout. Et c'est une expérience qui a été mise par écrit. C'est ce que nous appelons, et c'est ce qu'Israël appelle aussi, la révélation de Dieu. Dieu est présent et s'est laissé découvrir petit à petit à travers un peuple qui a perçu cette chose fondamentale, que Dieu était unique. Et que s'il était unique, il était le Dieu de tous. Et que la révélation, c'était de vivre de telle sorte, de vivre sa relation à Dieu, de telle sorte qu'elle puisse faire envie aux autres nations du monde. Qu'elle puisse faire envie. Qu'on puisse découvrir comme c'est bon d'habiter ensemble comme des frères. Psaume 133. Innematov ubanaim shevet achim gam yachad. Qu'il est bon et doux et agréable pour les frères d'habiter ensemble. Donc c'est cela qu'Israël a à dire au monde. Et c'est ça qu'Israël a transmis aux chrétiens. Mais la référence à cette transmission est essentielle à la réalité chrétienne. Si vous coupez la racine d'un arbre, il ne vit plus. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est de découvrir le sens profond de l'écriture d'Israël. Car Israël a écrit son expérience millénaire de la présence de Dieu. Elle l'a écrit à son époque. Et elle en a fait trois points essentiels, la Torah, c'est-à-dire une réflexion sur ce qu'est la réalité de l'homme en présence de Dieu, le prophétisme, je préfère parler de la prophétie parce que les ismes sont plutôt négatifs, la prophétie qui est l'application aux différentes époques de ce qu'il demande Dieu à travers la vie des peuples, à travers la vie publique, à travers la vie sociale, économique. S'il n'y a qu'un Dieu, si c'est le Dieu de tous, quelles sont les règles de justice et de droit? Et puis, il y a la sagesse. La sagesse, c'est la présence en tout homme de cette présence de Dieu d'une manière séculière, non pas religieuse au sens de rituel, d'extériorité, mais au sens séculier. Dieu est présent en tout homme et il se laisse découvrir dans la sagesse d'Israël, qui est sagesse comme le sont les autres sagesses humaines. Donc c'est en quelque sorte la religion noyée dans l'anthropologie. Et ce sont ces trois aspects qui forment le judaïsme et que le judaïsme a légué au christianisme. Donc il est important de découvrir aussi comment le juif interprète ses propres écritures. Non pas pour se ramener à leur interprétation, mais pour se laisser éclairer par elles. Et c'est justement ce que Jésus fait. Jésus reprend toute cette tradition. On vous a dit, moi je vous dis. Quand Jésus dit cela, il ne renie pas la tradition. Il va plus loin. Il l'amène à ce que nous appelons l'accomplissement. L'accomplissement, c'est une notion qui existe déjà dans le judaïsme. Toute révélation de Dieu s'accomplit dans l'histoire humaine. C'est-à-dire que l'action de l'homme est d'accomplir, c'est-à-dire de réaliser en conscience ce que Dieu, la manière dont Dieu travaille le monde, ce que Dieu fait dans le monde. Donc c'est ramener l'homme à une compréhension plus profonde de cette présence en tout homme. Et Jésus universalise cela. Et il l'universalise en parlant justement de filiation. Oh, la filiation existe déjà dans le judaïsme. La manière dont le juif prie, à l'époque de Jésus, comme encore aujourd'hui, c'est toujours Avin ou Malkénou, notre Père et notre Roi. Avin ou Malkénou. Et Jésus nous apprend que nous sommes vraiment fils de Dieu. Fils, donc nous avons un Père, le Père de Jésus est notre Père, et que ce Fils de Dieu vient instaurer le royaume des cieux, Les termes sont les mêmes. Pourtant, la réalité n'est pas tout à fait la même. Mais quand le juif dit « Avinu, notre Père », il parle de Dieu comme créateur. Avinu, notre Père, ce n'est pas lui qui nous a mis au monde, non. Mais il est notre Père parce qu'il est notre créateur. Il est le créateur de la vie. Mais nous avons été mis au monde par un papa et une maman. Abba, Imma. Et ces termes, Ava, Abba, Imma, on ne les utilise pas pour Dieu. Avinu, oui, notre Père, au pluriel. Mais papa ou maman sont des noms humains pour le juif. La filiation est donc considérée un peu comme métaphorique. Ce n'est pas, c'est pas lui qui nous a donné notre corps, hein? C'est pourtant lui qui tisse dans le sein de notre maman, parce qu'il est la vie. Donc quand on met l'accent sur Avinu, notre Père, on veut dire justement la vie est divine. La vie qui est dans l'homme est divine, est une réalité divine dans l'homme. Malgré nous, là, le règne de Dieu, c'est ce que nous avons à faire. C'est la rédemption. Avinu, création. Malkeinu, comment allons-nous instaurer humain sur cette terre ce royaume de Dieu, ce royaume d'abord des cieux, puis ce royaume de Dieu. Le royaume des cieux, c'est un royaume de justice et de paix. Le royaume de Dieu, c'est cette réalité vécue dans le monde qui va être transporté dans la réalité de Dieu dont nous ne savons rien, sinon qu'il est créateur et rédempteur. Quand Jésus parle de Père, il parle aussi du royaume de Dieu. Il dit aussi, convertissez-vous, le royaume de Dieu est proche. Il l'est toujours proche. Il n'est pas encore instauré. Et voyez bien que Jésus a fait de filiation quelque chose de beaucoup plus intime, beaucoup plus profond, que le juif ne peut pas recevoir. Il se contente, si je puis dire, mais pour lui ça lui suffit, il se contente de la parole de Dieu, du Verbe. Le Verbe a pris corps dans le peuple d'Israël, d'accord. Le Verbe a pris chair dans le peuple d'Israël. Le juif est tout à fait d'accord avec ça. Sa parole. La parole de Dieu. Pas Dieu lui-même. La parole. Et sa parole intime l'ordre d'obéir au commandement, c'est-à-dire de recevoir le don que nous sommes. C'est ça le commandement. Le commandement, c'est de devenir ce que nous sommes de plus en plus, c'est-à-dire des créatures de Dieu, des fils de Dieu. Mais ça, c'est métaphorique pour le juif, fils de Dieu. Tout un chacun est fils de Dieu. Israël, le judaïsme l'admettra sans peine. Tout un chacun est fils de Dieu. Mais parler de fils de Dieu au sens dans lequel Jésus le prend, disons que chaque personne est un fils authentique de Dieu dans le Fils unique, là ça va trop loin. Là, ça ne va plus. Parce que c'est presque de l'idolâtrie. Je me rappelle encore ce petit bout qui était venu se planter devant moi et qui me demandait Gamata Mishtakavé le Psilim, tu es aussi un adorateur d'idoles? Ah, un chrétien, c'est un adorateur d'idoles, il adore une croix. Il adore un homme sur une croix. Qu'est-ce que c'est que ça? Adorer l'humanité. Et pourtant, le juif est capable de le comprendre mieux que nous. Mais c'est trop fort. Dire qu'un homme soit vraiment le Fils de Dieu et que cet homme nous révèle que chaque un et chaque une, nous sommes intégralement fils de Dieu, oh, ça va trop loin. Que le Verbe s'est fait chair et qu'il a habité parmi nous, d'accord. Que le Verbe se fait chair en chacun d'entre nous, ça va trop loin. Nous arrivons à la limite de l'idolâtrie. Alors, jusqu'ici, nous sommes restés encore jusqu'au Concile Vatican II, ou bien dans le conflit avec le judaïsme, parce qu'ils n'avaient pas compris ce que nous n'avons pas mieux compris qu'eux. Et notre danger, c'est celui, je vous rappelais avec un passage de Mgr Lustiger, c'est que nous n'arrivions pas à cette idolâtrie. Et que la manière dont nous sommes fils de Dieu et la manière dont nous considérons Jésus ne sois pas idolâtre. Et que nous ne pensions pas que parce que Jésus est derrière nous, nous soyons déjà devenus Jésus. Le juif nous indique cela. Et il a besoin de nous l'indiquer parce que c'est sa vocation. Et nous avons besoin de l'écouter parce que c'est notre racine. Alors voyez, le juif empêche le chrétien de devenir idolâtre. C'est peut-être le bénéfice le plus important de la continuité, de la pérennité du judaïsme. S'il était vraiment dépassé, il n'y en aurait plus. Le rabbin David Meyer, avec qui j'ai donné cours quelquefois, me disait « Le juif doit éviter l'idolâtrie de la Torah. » Et le chrétien doit éviter l'idolâtrie de sa foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons besoin de parler ensemble. Et je crois que c'est vrai. Le dialogue, c'est de découvrir chez l'autre quelque chose que nous avons et que nous ne comprenons pas encore. Et voilà à quoi sert le dialogue entre juifs et chrétiens. Je vous engage aussi à lire les deux ou trois pages qui suivent encore à la fin du syllabus. Il y a encore quelques pages qui me paraissaient importantes pour donner des indications sur le dialogue chrétien entre juifs et chrétiens. Mais je vous citerai pour terminer une lettre venant du Centre communautaire juif de Paris à nos chers frères chrétiens. C'est daté du 4 avril 2005 à nos frères chrétiens, c'est avec une émotion mêlée d'une infinie tristesse que les Juifs de France ont appris le rappel à Dieu de son serviteur le pape Jean-Paul II. Le peuple chrétien n'a eu que le chef qu'il mérite. Jamais affirmation n'a paru aussi vraie. Un homme d'exception pour un grand peuple. Le pape Jean-Paul II restera dans la mémoire juive comme le pape des Juifs. Il aura incarné avec détermination, avec courage, le message de la croix qu'il rappelait inlassablement à son peuple. Il fut un guide et un berger pour les pauvres, les malades. Il aura contribué non seulement à la réconciliation des chrétiens, mais aussi à réveiller, à motiver la foi de la jeunesse chrétienne à travers les JMJ. Pour la première fois dans l'histoire, les Juifs n'avaient plus peur. Ce pape les avait écoutés, compris, réconfortés, non pas par des mots, mais par des actes. Et c'est pourquoi, justement, l'édition de La Promesse montre le pape Jean-Paul II mettant ses petites intentions sur un petit billet qu'il glisse dans le mur dit des Lamentations, disant justement qu'il se met comme Jésus à la suite des pénitents qui venaient au baptême de Jean le Baptiste et qui se mettent à la suite de ses fidèles pour dire qu'il accueille, c'est ça un acte, qu'il accueille vraiment toute la tradition juive. Je vous remercie.